journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Les premiers mots des otages français libérés hier sont allés aux familles des deux soldats, membres du commando Hubert, morts au combat lors de l'opération menée au nord du Burkina Faso. Ils viennent d'être reçus par le président burkinabé à Ouagadougou, correspondance de Fanny Noirou. Au Yémen, la proposition des Houthis d'évacuer trois ports, dont celui de Deida, décryptage Marie-Pierre Véraud. La guerre commerciale Chine-États-Unis, Donald Trump et Xi Jinping s'affrontent à coups de taxes douanières. Atouts et fragilités des deux présidents, avec le géopolitologue Pascal Boniface. Nous serons en ligne de Lyon, en ce 26e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, Lyon, où les Gilets jaunes ont tenu meeting en fin de matinée. Puis la bulle écho de ce samedi, signée Anne-Laure Chouin, traite des quotas sucriers. Des militaires burkinabés ont participé à la traque ainsi qu'à la localisation des ravisseurs et des geôliers des quatre otages libérés hier par le commando français qui a donné l'assaut au nord du Burkina Faso. Quatre otages sains et saufs, dont deux Français enlevés au Bénin le 1er mai dernier. Ces deux otages de retour au pays ce soir seront accueillis par le chef de l'État. Avant de s'envoler, pour l'aéroport militaire de Villacoublay, Patrick Pic et Laurent Lazimouyas ont été reçus par le président burkinabé Marc Christian Caboret. Bonjour Fanny Noirou.
Bonjour.
M'entendez-vous? Vous êtes en direct de Ouagadougou. Vous avez suivi cette réception donnée ce matin au palais présidentiel.
Oui, une réception, plutôt une entrevue rapide. Ils sont arrivés, il était à peu près 9h heure locale. Et lorsque les ex-otages sont descendus de leur voiture, ils étaient vêtus tous deux d'un t-shirt noir, d'un pantalon de jogging et de tongs aux pieds. Et avec eux était présente également l'ex-otage sud-coréenne. En revanche, nous n'avons pas vu la ressortissante américaine qui a été prise en charge par ses autorités. Comme vous pouvez l'imaginer, les visages étaient bien évidemment serrés. Une fois sortis de leur véhicule, ils sont rapidement entrés dans le palais présidentiel, sans un mot, pour rencontrer le chef de l'État burkinabé. À la sortie, c'est Laurent Lazimouyas, l'un des ex-otages, qui a pris la parole, les mains tremblantes. Une très rapide déclaration, la voix teintée d'émotion. Vous l'avez dit, les premiers mots ont été adressés aux soldats français, suivis ensuite d'une pensée émue aussi pour leur guide béninois qui a été retrouvé assassiné. Ils ont ensuite tenu à remercier les autorités françaises, mais également les autorités burkinabées. Vous savez, elles ont effectivement participé à l'opération militaire. Une coopération qui est nécessaire, a tenu à ajouter le ministre des Affaires étrangères burkinabé qui était présent ce matin aussi lors de la déclaration. Pas un mot en revanche officiellement du président, du chef de l'État qui a préféré rester à huis clos. Une fois cette déclaration faite, les otages ont pris la route de l'aéroport pour rejoindre donc en fin de journée la France et l'aéroport de Villacoublay.
Merci à vous Fanny Noirou. Ce matin, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a une fois de plus invité les touristes à la plus grande prudence au sud du Sahel. Deux commandos Hubert, l'élite des troupes spéciales, sont morts au combat. Lors de cette opération de sauvetage des otages, Emmanuel Macron présidera une cérémonie d'hommage aux deux sous-officiers mardi après-midi aux Invalides. C'est un engagement qui pose question et mérite quelques contextualisations. Hier soir, les Houthis ont décidé unilatéralement d'évacuer à compter de ce samedi trois ports yéménites, dont celui de Deida, considéré comme la principale voie d'abord humanitaire par l'ONU et comme un point d'acheminement d'armes par le gouvernement yéménite. Le gouvernement yéménite qui qualifie ce matin cette proposition des Houthis de trompeuse et inacceptable. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Mathieu Laurent.
Marie-Pierre, cet engagement s'inscrit-il dans le cadre des dernières négociations en date?
Eh bien, c'est effectivement l'un des points de l'accord de cessez-le-feu conclu en décembre dernier à Stockholm sous l'égide de l'ONU et jamais vraiment mis en œuvre. Les Houthis sont censés évacuer les ports de Salif, utilisés essentiellement pour le transport du grain, de Ras Issa, qui lui sert de terminal pétrolier, et le plus connu, le port d'Odeida, vital pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Ports de l'ouest du pays, au cœur des tensions entre les rebelles soutenus par l'Iran et la coalition pro-gouvernementale menée par l'Arabie Saoudite. Selon le texte de l'accord qui avait été arraché aux belligérants en Suède, ce sont les ports de Salif et Ras Issa qui doivent être évacués en premier. Des cartes précisant la localisation des mines remises à l'ONU afin qu'elles puissent être désamorcées. Et c'est ensuite que le principal port, Odeida, devrait à son tour faire l'objet de ce redéploiement, tandis que les forces pro-gouvernementales, elles, se retirent d'une une zone appelée Kilo 8. Alors, l'ONU avait annoncé ce retrait unilatéral dès hier soir. Les rebelles l'ont confirmé ce samedi et ce matin, des équipes d'observateurs onusiens ont bien assisté au début de l'évacuation des deux premiers ports. C'est du moins ce que rapporte un journaliste de Reuters sur place. Et si tout se passe conformément à l'accord de cessez-le-feu, eh bien, ce sera une grande avancée dans ce conflit vieux de plus de 4 ans qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, de nombreux civils parmi eux. Il convient toutefois de rester encore prudent. Vous citiez le scepticisme, c'est le moins que l'on puisse dire, du gouvernement yéménite. La confiance est loin d'être au rendez-vous entre les belligérants. Le retrait devait en effet commencer en janvier, mais le climat entre les forces en présence ne l'avait pas permis. Il faudra voir si ce retrait se confirme et si les forces onusiennes aussi, surtout, ont réellement les moyens d'en contrôler la réalité.
Merci à vous, Marie-Pierre Véraud. Les États-Unis plastronnent encore et toujours au Moyen-Orient avec l'envoi d'un navire de guerre transportant des véhicules, notamment amphibies, ainsi que d'une batterie de missiles Patriot s'ajoutant au déploiement dans la région d'un porte-avions. Le Pentagone précise, je cite, « continue à surveiller de près les activités du régime iranien, leur armée et leurs affidés », fin de citation, tout en assurant que les États-Unis ne cherchent pas un conflit avec l'Iran. Un autre front est de grande ampleur, peuple la communication de la Maison-Blanche, celui qui oppose Washington à Pékin. Hier, 2 heures de pourparlers sur les taxes douanières dans la capitale fédérale et dans la foulée, Donald Trump qui ordonne à son administration de porter les droits de douane de 10 à 25% sur un montant de 300 milliards de dollars d'importations chinoises. D'autres taxes pourraient être annoncées dès lundi et toutes les importations chinoises seraient alors concernées. Pour la première fois dans ce bras de fer politico-économique, Pékin n'a pas riposté. Mais malgré son bilan économique positif et ses fanfaronnades sur Twitter, Donald Trump n'est pas forcément en position de force, selon Pascal Boniface, géopolitologue et fondateur de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques.
La Chine ne veut pas se priver de l'accès au marché américain et donc elle hésite à se lancer dans une guerre totale avec les États-Unis, pensant que le temps joue pour elle. Il y a eu un déficit commercial américain par rapport à la Chine de 400 milliards de dollars l'an dernier, cette année, comparé aux 300 milliards lorsque Trump est arrivé au pouvoir. Donc la Chine a des marges de manœuvre, elle peut céder un peu. Ce qui compte pour elle, c'est d'avoir toujours accès au marché américain et de penser que sa croissance est supérieure à celle des États-Unis et qu'elle va donc rattraper les États-Unis. Et donc il y a aussi le sentiment de ne pas non plus vouloir baisser la tête. La Chine ne veut pas apparaître comme un pays qui cède aux Américains. Donc ils vont essayer de trouver un compromis qui puisse permettre à chacun de sauver la face. Trump a besoin d'un succès pour aller devant les électeurs en disant que lui, contrairement à ses prédécesseurs, a fait plier la Chine, en disant qu'il a réussi là où Obama, Clinton, Bush avaient échoué. Mais en même temps, il y a une double dépendance entre les États-Unis et la Chine sur les affaires commerciales. Les États-Unis ne peuvent pas non plus, pour des raisons de compétitivité, se priver des produits chinois, sinon leurs propres produits, qui intègrent en grande partie les importations chinoises, seraient plus chers. C'est vrai que l'économie américaine se porte très bien, elle va de mieux en mieux grâce notamment à l'énergie, grâce au gaz et au pétrole de schiste qui inverse un petit peu le cours des choses, mais en même temps le déficit américain aussi bien commercial que budgétaire reste élevé et les bonnes nouvelles pourraient être compensées par des mauvaises.
Pour revenir un tout petit peu sur ces taxes donc qui sont mises en place, c'est quelque chose qui finalement va finir par peser aussi sur les Américains. Déjà les agriculteurs en ont payé un peu le prix. Est-ce que ça pourrait pas y avoir un retour de bâton pour Donald Trump de cette politique agressive?
Oui, complètement, parce que importation plus chère veut dire produits américains plus chers eux-mêmes à l'exportation, parce qu'on est dans une économie mondiale, globale, et donc il n'y a pas de produits purement faits aux États-Unis ou de produits purement faits en Chine. Donc un jour ou l'autre, les industriels américains se craignent déjà que cela vienne retirer une partie de la compétitivité des produits américains. Mais en fait, on voit bien que là, Trump est dans une optique de court terme. Ce qui peut se passer en 2021-2022 n'est pas du tout sa préoccupation. Ce qui compte, c'est pouvoir venir devant les électeurs avec un bilan triomphant, voire triomphaliste, en novembre 2020.
Le géopolitologue Pascal Boniface répondait aux questions de Thomas Larabie. 12h39, vous écoutez le journal de France Culture. À quelle remobilisation peuvent-ils prétendre les Gilets jaunes en ce 26e samedi de manifestation, appel à défiler dans les principales villes du pays et à 2 semaines des élections européennes, une question de circonstance. À quelle plus-value politique peuvent-ils prétendre ces gilets jaunes? Amorce d'une réponse avec vous, Blaise Fayol. Bonjour Blaise.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Lyon où ce matin, en fin de matinée, des gilets jaunes ont tenu un meeting.
Oui, Christophe Chalençon et sa liste Évolution citoyenne tiennent une réunion publique plus qu'un meeting. D'abord parce que seulement une quinzaine de personnes ont répondu présentes. Ensuite parce que la liste issue des Gilets jaunes veut s'appuyer sur ce dialogue avec les citoyens pour construire sa ligne de conduite. Le micro circule donc de main en main dans la petite salle municipale avec les réponses de Christophe Chalençon. Au cœur des discussions, la critique de l'ultralibéralisme, l'immigration, l'écologie. Christophe Chalençon entend notamment organiser une Europe à deux étages où les pays historiques ne s'abaisseraient pas, entre guillemets. Il cite notamment les pays de l'Est qui détruisent des emplois de l'artisanat français. La liste Évolution citoyenne prévoit aussi de dépasser les élections européennes. Des listes sont préparées pour le scrutin municipal. Voilà pour ce premier aspect du week-end Gilets jaunes lyonnais. Pour le reste, ce sera plus classique. Un cortège à partir de 14h dans la ville. Un cortège qui va devoir éviter les quatre zones interdites à la manifestation. Le quartier touristique, le quartier commercial et puis les alentours de l'hôtel de ville et du siège de la métropole. Plusieurs milliers de personnes sont attendues, dont Jérôme Rodriguez, l'une des figures du mouvement. Et puis ce soir, un pique-nique géant se tiendra dans un parc, suivi de la projection du film « Jeu du soleil » de François Ruffin. Enfin, demain, c'est au tour des femmes gilets jaunes de la région Auvergne-Rhône-Alpes de défiler un cortège dans le centre-ville pour continuer de porter tout ce week-end les revendications des gilets jaunes sur le pouvoir d'achat.
Merci à vous, Blaise Fayol à Lyon.
La bulle économique, Anne-Laure Chouin.
Et la bulle économique de ce samedi s'intéresse au quota sucrier.
Rappelez-vous, c'était en avril 2015. L'une des mesures phares de la PAC, la politique agricole commune, les quotas laitiers, disparaissaient. Mis en place pour éviter la surproduction, il était pourtant à prévoir que la fin de ces quotas entraînerait à nouveau ce phénomène. Ce qui n'a pas manqué, la chute brutale et d'ampleur des cours du lait en 2016 a causé la crise qu'on connaît, dont beaucoup de producteurs laitiers européens ne se sont jamais remis. Avec la fin des quotas sucriers, qui elle a pris effet en octobre 2017, les mêmes causes ont produit les mêmes effets, avec cette différence notable que, contrairement au lait, la production européenne de sucre n'est pas capable en soi de déstabiliser le marché mondial, elle en est plutôt dépendante. Quoi qu'il en soit, en 2015-2017, le sucre se vendait bien, très bien même, poussant l'industrie sucrière européenne à développer sa croissance, en rachetant des concurrents, par exemple, ou en nouant des partenariats à l'étranger. La fin des quotas, pensait-on avec un excès d'optimisme certain, allait permettre de produire plus, de vendre plus, et l'idée d'une surproduction possible n'effleurait pas, semble-t-il, les esprits. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. Il a suffi d'une excellente mousson sur la canne à sucre indienne, d'une très bonne récolte au Brésil et d'une arrivée en fanfare sur le marché de la Thaïlande, favorisée dans les cas indiens et thaïlandais par une politique agricole volontariste d'aide à la production, pour que l'argent du sucre s'envole en fumée. Cette surproduction que beaucoup n'avaient pas voulu anticiper a bien eu lieu. Le cours du sucre s'est effondré, à l'heure qu'il est, il est toujours en berne. Malgré la demande mondiale, toujours orientée à la hausse, et malgré la forte volatilité du cours de cette matière première, très soumise aux aléas, notamment météorologiques. Conséquence en France, les principaux industriels du sucre font face à des restructurations douloureuses, à moins, estiment certains analystes, que cette mauvaise santé du marché mondial ne serve de fenêtre d'opportunité pour justifier des décisions qui étaient dans l'air depuis longtemps. L'Allemand Sud Zucker, qui détient la marque Saint-Louis, annonçait il y a quelques semaines la fermeture de ses deux sites français du Calvados et de la Somme. Chez Tereos, qui détient les marques Béguinset et La Perruche, cette conjoncture défavorable a fait plonger les résultats et éclater une crise interne dans laquelle la coopérative se débat toujours. Enfin, le groupe Cristal Union a lui annoncé la fermeture de deux de ses 10 sites français. Le tout après avoir investi des dizaines de millions d'euros pour augmenter ses capacités de production. Des investissements qui, pour ces 3 cas, se sont rapidement transformés en dettes. Et puis, il y a les producteurs de betteraves. Plusieurs de leurs acheteurs ont décidé que les prix d'achat de ces betteraves ne seraient plus garantis. Des prix qui avaient pourtant été fixés dans des contrats noués lorsque les cours étaient au plus haut. Ces betteraviers que l'on avait incités à semer plus devront manger leur pain noir en attendant que les prix se redressent.
même s'ils se redéploient sur des cultures de céréales, ce qui est l'usage. Les cours mondiaux céréaliers sont eux aussi en pleine dépression.
Merci à vous, Anne-Laure Choin.
Quand est-ce que se redresseront les prix du sucre ? Les plus optimistes parient sur la fin de l'été. Ils comptent sur une récolte brésilienne moins importante que prévu, mais aussi sur une hausse des cours du pétrole, car lorsque le prix du pétrole augmente, le Brésil, premier producteur mondial, préfère transformer une partie de sa production de sucre en éthanol, autre carburant, ce qui fait mécaniquement monter les cours du sucre à destination alimentaire. Mais à l'heure qu'il est, ce sucre laisse à ceux qui le produisent un goût amer.
Merci à vous, Anne-Laure Choin. À bientôt. Encore beaucoup de pluie au menu météo de l'après-midi, mais un retour du soleil sur la façade atlantique. Les températures, 15 degrés sur la moitié nord, elles grimpent jusqu'à 22 pour le sud. Cette édition a été préparée avec Julien Loquet, à la technique Alice Seyed.